Merci beaucoup. Hey, merci à toute l'équipe. On donne une bonne main d'appréciation. Merci aussi à tous ceux qui ont travaillé avec les enfants. Tu sais, Amiel, c'est aussi beau de voir les enfants chanter que de te voir les diriger. Hey, c'est vraiment bien. T'as vraiment le tour. Beaucoup de talent ici. C'est une grosse fin de semaine, vous savez. Dominique va nous en parler tantôt plus tard, dans le temps des annonces, mais je vous dis, mon ami, il y avait la jeunesse, tout un gros programme de jeunesse vendredi soir, distribution des paniers de Noël hier, et hier soir, le concert d'héritage, vous avez aimé? Ah, oh, c'est bon, hein? Super, et merci à tous ceux qui ont travaillé tellement fort hier à la technique pour tout organiser ça. Il y avait des gens qui étaient ici depuis le matin pour s'assurer que ça allait être bien hier soir, c'est incroyable. Et hier soir, si vous étiez là, justement, vous avez vu, hein, c'était tout le thème, évidemment, c'était un concert pour Noël. En même temps, on a voulu ramasser des fonds pour l'ouragan Matthew. La musique tournait autour, elle se centrait sur la naissance de Jésus-Christ. Et si vous voulez un album, il y a plus d'album. On me dit ce matin qu'il n'y a plus d'album à l'arrière, mais vous pouvez aller au Messager chrétien ici, tout près d'ici, pour acheter un album du groupe Héritage avec le thème de Noël. C'est vraiment beau. On l'a déjà acheté hier soir, mais on l'écoutait en chemin dans la voiture, retournant à la maison, et vraiment, vraiment bien. Et vous savez, on n'y échappe pas, on entend ça à la radio et à la télévision, hein, de ce temps-là, c'est la musique de Noël. Et même si la société s'éloigne d'année après année du vrai sens de Noël, ces chants de Noël, plusieurs de ces chants de Noël, nous ramène finalement au sens de Noël, nous rappelle le message de Noël. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ce matin, vous avez vu, hein? On a chanté quelques chants de Noël. Et regardez ces paroles qu'on a chanté ce matin. « Ô Christ, né dans l'étable, à Bethléem, la nuit, toi, lumière adorable. » Dans les chants, le berger veille, on entend ça hein, parfois, on l'a chanté ce matin. « Il vient sur la terre fléchir, la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur, il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Quel est l'enfant? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. » Vous savez, en quelques mots, et c'est ça, les artistes, ils réussissent à encapsuler un message très profond à l'intérieur de quelques strophes, quelques mots. Et ces chants, en quelques strophes, en quelques lignes, réussissent à résumer, à encapsuler tout le message, finalement, le message, ou du moins l'essence du message du christianisme, l'Évangile. Comprendre Noël, c'est comprendre l'essence du christianisme, c'est-à-dire l'Évangile. Et l'un des thèmes qui va revenir à l'intérieur de ces chants que l'on voit dans la période de Noël, c'est la lumière. Et le chant qu'on a chanté tantôt, « Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir tout joyeux comme un feu dans le noir? » On sait que Noël approche, c'est évident. Vous avez juste à vous promener dehors dans votre quartier, vous allez voir quoi? Plein de lumière. C'est plein de lumière. Écoutez, voici quelques photos de certaines lumières ici qu'on a à vous montrer. Et ça, ça nous fait vraiment, on sait que c'est le temps de Noël, hein? Regardez ça. Incroyable. Hein? C'est pas ta maison, Régent? Ça, c'est, non, c'est pas. Regarde ça là. Oh, ça, c'est, regarde ça la maison, là. Hey, il y a les lumières. Hein? Incroyable. Spectaculaire. C'est féerique. C'est vraiment, vraiment féerique. Il y a des gens qui ont travaillé très fort pour ça, mon ami. Mais ça met l'ambiance, en tout cas. Hein? Les enfants sont contents, ils voient tout ça. Et là, ça fait penser, ça donne à penser à cette période des fêtes. Et vous savez, on pense, on regarde, on se promène dans les rues. On a même juste dans notre quartier, et on se promène dans les rues, puis il y a des maisons, c'est tout à fait magnifique ce qu'ils ont réussi à faire, et des heures passées là-dedans. Et je peux imaginer les enfants tout éblouis par cette festivité, toutes ces lumières qu'il faut penser comme plein d'étoiles. On dirait que notre ville est enveloppée d'étoiles. Et vous savez, toutes ces lumières, en fond, c'est pas juste décoratif, mais ça a une forte portée symbolique. déjà des centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Des centaines d'années, le prophète Ésaïe a fait cette prophétie à l'endroit de ce Jésus qui allait naître dans des centaines d'années plus tard. Et nous lisons cette prophétie dans le livre d'Ésaïe. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre d'Ésaïe. On va le lire en avant. On aime toujours, on encourage toujours les gens à tourner dans leur Bible et à suivre avec nous. Mais si c'est trop compliqué, il y a toujours la table des matières en passant qui va vous sauver beaucoup de temps. Puis, mais sinon, je vais le lire en avant si jamais vous avez trop de difficultés à le trouver, là. Alors, Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Maintenant, on lira pas, ben, on pourrait lire tout le passage, en fait. Je voulais lire juste quelques versets, mais tiens, on va lire au complet, le 1 à 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrées aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On va arrêter notre lecture ici. Vous savez, Ésaïe, le prophète Ésaïe commence avec ce verset 1 où il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. » Ésaïe commence en nous rappelant que notre monde se trouve dans les ténèbres et il a besoin de lumière. Maintenant, Noël contient plusieurs vérités spirituelles, mais il y en a une vraiment qu'on a besoin de saisir, sinon on ne comprendra pas les autres, c'est que notre monde se trouve dans les ténèbres et nous avons besoin de la lumière divine, la lumière qui vient de Dieu. On ne trouvera jamais notre chemin, on ne saisira jamais la vérité, à moins que Jésus soit notre lumière. L'évangéliste Matthieu, par exemple, qui va reprendre cette même prophétie qui a été donnée par Ésaïe, il va citer ce prophète, mais pointe vers Jésus. Et voici ce qu'il dit dans Matthieu, chapitre 4. Il dit, « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort. Une lumière s'est levée. » Le Jean aussi, l'évangile de Jean, nous voyons Jean qui nous dit au chapitre 1 de son évangile, et il parle à nouveau de Jésus-Christ et il dit, « Cette lumière est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. » Plusieurs personnes l'ont rejeté, n'est-ce pas? Et ils l'ont même emmené jusqu'à la croix, ils l'ont même tué. Alors, en quoi le monde est-il dans les ténèbres? Eh bien, il faut savoir que dans les Écritures, lorsque les Écritures emploient ce terme, les ténèbres, ça fait référence au mal et à la souffrance. D'abord, ça signifie que notre monde est rempli de mal et rempli de souffrance, et on le sait. Si on regarde tout d'abord à l'époque de Jésus, lorsque Jésus est venu au monde, c'était l'oppression sous l'Empire romain. Et si on décrivait, un journaliste qui décrivait, ou même un sociologue qui décrivait la société de l'époque, on l'aurait décrit ainsi, il y avait de la violence dans le temps avec l'Empire romain. Il y avait de la violence, l'injustice, l'abus de pouvoir, il y avait de l'itinérance, il y avait des réfugiés qui essayaient de fuir l'oppression, des familles qui étaient tourmentées, familles éclatées. Et quand tu regardes la description de notre société, finalement, c'est essentiellement la même chose. Notre monde actuel est dans les ténèbres et personne ne réalise que la solution n'est pas ici-bas sur Terre. Ésaïe commence en disant, verset 1, comme on l'a lu tantôt, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres », et le mot « marcher » ici signifie « vivre ». Alors, ça veut dire le peuple qui vit, qui vivait dans les ténèbres, et ça continue, qui habite le pays de l'ombre de la mort. C'est comme s'il y a une grosse ombre sur le pays qui est l'ombre de la mort. Et pour comprendre ce qui se passe lorsque Ésaïe donne sa prophétie au chapitre 9, il faut reculer dans le contexte au chapitre 8. Et ce qu'on découvre, finalement la raison pour laquelle on a besoin de la lumière de Dieu. Au chapitre 8, versets 19 et 20, nous voyons le peuple qui consulte des médiums et des magiciens. Puis il faut comprendre que les magiciens de l'époque, dans l'Antiquité, on ne parle pas ici des gens qui faisaient des trucs de magie qu'on peut entendre ou voir à la télévision avec des talents à revendre, avec des gens qui vont faire des petits trucs de cartes. On ne parle pas de ça. Les magiciens de l'Antiquité, c'était les penseurs, les sociologues de l'époque, les érudits. Et on allait vers eux, vers les médiums, vers les mystiques et les grands penseurs pour essayer de trouver des solutions au mal de ce monde. Et c'est ce que les gens faisaient au chapitre 8, c'est ce que ça nous dit. C'est la situation de l'époque. Et on allait consulter les grands penseurs et les érudits pour finalement trouver des solutions au mal du monde. Alors le peuple consulte ces gens au lieu de consulter Dieu. Alors, le chapitre termine en disant, verset 21, « Il parcourra le pays, accablé et affamé, puis il regardera, verset 22, vers la terre, et il ne verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà que la terre regorge de problèmes et le monde cherche des solutions, mais ils cherchent des solutions par leur propre force, par leurs propres moyens. Au lieu de consulter Dieu, ils vont consulter des gens autour, les grands penseurs, les érudits. Et en d'autres mots, ils essaient de régler les problèmes de la société par leurs propres forces. Ils regardent sur la terre, ils cherchent des ressources humaines pour arranger le monde. Ils consultent des experts afin de trouver des solutions. Ils reconnaissent, ils sont bien conscients qu'il y a des problèmes dans la société. Ils voient les ténèbres, ils savent que ça ne va pas bien dans la société, mais ils disent, au bout du compte, face à cette analyse, ils disent, on va être capable de s'en sortir par nous-mêmes. Les gens, vous savez, disent la même chose aujourd'hui. Les gens vont se tourner à l'économie, au marché, pour avoir des solutions. Ils vont se tourner vers le gouvernement pour avoir des réponses, des solutions, où on va espérer, on va mettre notre espoir dans l'avenir, la technologie. On espère trouver des réponses. Mais tous, essentiellement, disent la même chose. Ils ont la même idéologie, la même idée. Les choses vont mal, ils le savent, mais nous croyons pouvoir mettre fin aux ténèbres par nos propres forces, notre intelligence, par notre innovation. On va réussir à s'en sortir. Il y avait un article il y a quelque temps dans le New York Times qui disait ceci. « Noël signifie que l'amour va triompher et ensemble, nous pourrons concevoir un monde uni et en paix. » En d'autres mots, nous avons la lumière en nous. Nous sommes en mesure de faire disparaître les ténèbres de ce monde. Nous pouvons surmonter la pauvreté, l'injustice, la violence et le mal. On est capable, par nous-mêmes, par nos propres forces. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons créer un monde uni et en paix. Mais on réalise de plus en plus que c'est impossible. Hier matin, Lise et moi, on écoutait les nouvelles à LCN, puis il y avait un sociologue, le spécialiste du Moyen-Orient, qui travaille à l'UQAM, professeur là-bas à l'UQAM. Et puis, il parlait de toute la violence et les conflits à Alep, en Syrie. Et il donnait ses impressions, ses opinions. Il faisait une analyse. C'est un grand expert en sociologie. C'est un penseur. Et la journaliste, finalement, lui a posé cette question. Elle a dit, pensez-vous que les grandes institutions dans le monde, avec toutes les ressources qu'on a, on parle de milliards, on parle de la fine pointe de la technologie. Elle demande la question, pensez-vous finalement que les grandes institutions pourront régler les conflits? Et lui, ce grand penseur, cet expert du Moyen-Orient, cet érudit et ce sociologue qui est habitué d'analyser la société arrive à la conclusion en disant essentiellement ceci, on ne sera pas capable. Parce qu'il dit, voici ce qu'il dit, il dit, voyez-vous, même les grandes institutions, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent avec des intérêts financiers. Donc, aucune grande institution arrive de manière désintéressée, arrive d'une manière intègre et n'est pas biaisée. C'est, ça devient comme une guerre par procuration où on va aller aider, mais on va en profiter pour se remplir les poches. Vous voyez, la société ne peut résoudre le mal dans le monde, même si on le voulait. La lumière, tout d'un coup, luit dans les ténèbres, nous dit le passage. C'est une prophétie de l'arrivée, la naissance de Jésus-Christ. Lui est la lumière. Ceux qui vivent dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Remarquez qu'il n'est pas dit que la lumière vient de la terre. C'est la lumière arrive et elle luit sur la terre. Une lumière s'est levée. Elle vient de l'extérieur. Il existe une lumière à l'extérieur de ce monde. Et Jésus est venu apporter cette lumière pour nous sauver. Il est la lumière. Jésus a quitté le ciel pour venir dans nos ténèbres afin d'apporter la lumière. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus qui parle de nouveau. Et voici ce qu'il dit. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Vous voyez, Jésus lui-même se proclame être la lumière du monde. Et ses œuvres ont validé ce qu'il disait. Ses miracles ont validé ce qu'il disait, vu par des centaines de personnes. Lorsque Ésaïe parle de la lumière de Dieu qui brille au milieu des ténèbres, il se sert du soleil comme symbole. Le soleil apporte la vie, ça apporte la vérité, ça révèle les choses qui sont cachées dans le noir, dans la noirceur. Et aussi, c'est beau, c'est la beauté. Alors, le soleil apporte la vie, la vérité et la beauté. Premièrement, le soleil apporte la vie. Si le soleil disparaissait, on gèlerait tous, on mourrait. Prends une plante et enlève-la, prive-la du soleil. Qu'est-ce qui arrive? Elle va mourir. Et c'est ce que la Bible dit à l'endroit de Dieu. Dans Actes 17, verset 28, nous lisons, « En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si nous vivons, c'est parce que Dieu nous accorde la vie. Il nous garde en vie. Il nous prête vie, autant dans notre corps, l'esprit et notre âme. Selon les Écritures saintes, le péché est entré dans le monde et a fait un bris, a brisé cette relation que l'on avait avant la chute, avant l'entrée du péché dans le monde. Une relation que l'on avait qui était parfaite, qui était intime, qui était intègre avec Dieu. Elle était pleine et parfaite au commencement du monde. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui explique la mort qui est entrée dans le monde lorsque le péché est entré dans le monde. La mort est entrée. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes également morts spirituellement, nous dit la Bible. Nous connaissons donc maintenant une mort physique, mais aussi spirituelle. On a perdu l'espoir. Nous souffrons d'un mécontentement perpétuel. Nous avons cette sensation de vide dans notre cœur continuel et ça change rien que tu sois riche, que tu sois pauvre. Il y a plusieurs années, lorsque je travaillais dans l'industrie du couvre-plancher, je travaillais avec des propriétaires qui étaient multimillionnaires, ça faisait 24 millions par année, multimillionnaires, et j'étais seul souvent dans leur bureau. Je pouvais parler de ma foi, partager l'Évangile. Et ces bonhommes-là, là, qui étaient multimillionnaires, avaient de la misère à dormir. Ça dormait pas, c'était préoccupé. Les enfants étaient dans la drogue, dans certains cas. Ils vivaient les mêmes problèmes que nous vivons dans la société. C'est comme quelqu'un a déjà dit, vous savez, l'argent, c'est la seule différence, c'est que tu souffres confortablement. Je pense que c'est bien dit. C'est la société, il y a un malaise, il y a un vide dans l'âme, dans le cœur, qu'on veut combler par toutes sortes de choses. Mais on n'arrive pas. Il y a ce mécontentement perpétuel en nous. On lutte pour notre identité. On est incapable de changer vraiment et profondément, même si on le voulait. On lutte avec la culpabilité puis l'orgueil. Nous avons besoin de la lumière divine qui donne la vie. Deuxièmement, le soleil révèle la vérité. S'il fait noir, tu rentres dans la chambre, tu essaies de marcher, tant bien que mal, qu'est-ce que tu fais? Tu cognes les orteils. Pas vrai? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ma femme rit de moi lorsque ça m'arrive. Une fois, je suis passé, je suis allé dans la chambre, je voyais absolument rien. Je me lève en plein milieu de la nuit, je veux sortir de ma chambre, j'ai manqué, il y a un cadrage, de la porte, je suis rentré en plein dans le coin, juste ici. C'était très joli, toute la semaine avec un front, comme avec une craque dans le milieu. C'est ça qui arrive quand tu es dans les ténèbres, tu vois rien. Enlève les phares, promène-toi en voiture, sur l'autoroute, pas de phare, en plein milieu de la nuit, pas de lumière. Et qu'est-ce qui arrive? Tu vas avoir un accident. Le soleil, la lumière, met au jour ce qui ne se voit pas dans les ténèbres, n'est-ce pas? Ça révèle la vérité. Ça fait voir ce qu'il y a autour de toi. C'est révélateur. Il y a un site très populaire, un site Internet très populaire qui s'appelle Experience Project. C'est un site intéressant. Ça favorise le partage de tes expériences de vie. Les gens, ils vont t'envoyer, ils vont faire une affirmation, ils vont te poser une question, ils vont te déclarer quelque chose, et les gens de partout à travers le monde sont invités à donner leur vécu, leur ce qu'ils en pensent, comment ils l'ont vécu cela. Par exemple, on parlait de solitude, et là, les gens répondent comment ils vivent ça dans leur quotidien. Et à ce jour, il y a eu plus de 67 millions de personnes à travers le monde qui ont répondu à ces affirmations. Les gens partagent leur expérience. Et un jour, on a lancé cette affirmation-là, puis on a invité les gens à donner leur vécu. Comment ils vivaient ça? Et regardez bien cette phrase. On lance ça comme ça, sur la toile, comme dirait Eric. On lance ça partout à travers le monde, là, sur la planète, et des gens qui répondent à travers le monde. Et voici la phrase qu'on a lancée. « Je préfère les ténèbres à la lumière. » Plusieurs personnes ont répondu, dont cette jeune femme, une jeune demoiselle, qui a répondu ceci. « Je préfère les ténèbres à la lumière parce que dans les ténèbres, je peux cacher qui je suis. » Et cacher comment je me sens vraiment. À la lumière, tout peut être révélé. Les ténèbres nous permettent de nous cacher plus facilement. Il y a beaucoup de souffrance dans ça, hein? Vous voyez? Il y a beaucoup de souffrance derrière ces paroles. La lumière révèle la vraie nature des choses. La lumière met à jour la vérité. La parole de Dieu dit que Dieu est la source de la vérité. Dans 1 Jean 1,5, nous pouvons lire, « Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Dieu est lumière, c'est sa nature, il est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors d'un côté, si nous pouvons connaître quelque chose, c'est grâce à Dieu, parce que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a donné cette capacité intellectuelle que nous pouvons avoir. Alors, il y a un aspect de la vie, à un niveau, si on peut connaître des choses, c'est grâce à Dieu, ultimement, parce que c'est lui qui nous a créés. À un autre niveau, si on ne peut pas connaître Dieu à moins qu'il se révèle à nous. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu, c'est Dieu qui révèle son cœur. Il ouvre son cœur. Il étale son cœur, il lui fait connaître qui il est, mais en même temps, c'est un miroir qui te fait voir, qui jette les projecteurs sur ton cœur, comment ton cœur est vraiment. Donc, ça jette les projecteurs sur Dieu, sur Jésus-Christ, et nous aide à connaître Dieu, mais en même temps, ça tourne les projecteurs vers ton cœur, et ça te montre qui tu es vraiment. C'est comme tout est mis à jour, et là, on peut voir. Et c'est pour ça que nous avons tellement besoin de lire les Écritures, de nous exposer à la parole de Dieu. Et moi, j'espère qu'une des belles résolutions que vous pourriez prendre et que je peux prendre pour le 1er janvier, c'est de commencer tous les jours à lire un passage des Écritures de manière suivie. Peut-être qu'il y a toutes sortes de méthodes, peut-être passer à travers 4 chapitres par jour, vous allez passer à travers la Bible au complet en un an. Il y a plusieurs méthodes, là. mais on en a au kiosque, vous pouvez le demander. L'idée, c'est tous les jours de pouvoir vous plonger dans les Écritures, laisser Dieu parler à votre cœur. Et c'est pour ça qu'on a besoin, tellement besoin de la parole. Alors, nous avons besoin de la lumière divine qui donne la vie et révèle la vérité. Mais un autre grand mérite du soleil, c'est sa beauté. C'est beau, c'est éblouissant. La lumière procure de la joie, pas vrai? Lorsqu'une personne vit souvent, et les études ont été faites et démontrent très bien que des gens qui vivent très souvent dans les ténèbres vont souffrir même de dépression et de découragement. On a besoin de soleil pour avoir cette joie-là. C'est une source de beauté et de joie. Saint-Augustin a dit ceci, il dit « Notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en Dieu. » Notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et ça revient à dire ce qu'on disait tantôt, hein, qu'il y a ce mécontentement, ce vide à l'intérieur de notre cœur qui ne peut être rempli uniquement par le Seigneur lui-même. Mais qu'est-ce que Saint-Augustin voulait dire? Eh bien, il croyait que même lorsque nous pensons nous réjouir de quelque chose, en fait, c'est Dieu qui est à l'arrière-scène, qui est vraiment à la source de cette joie. Ce que vous aimez vient de lui et c'est beau parce qu'elle porte sa signature étant le Créateur. Il dit tout ce qui vous apporte de la joie dans ce monde vient ultimement de Dieu. Tout ce qui vous procure de la joie dans ce monde est un produit dérivé parce que ce que vous cherchez vraiment, que vous le sachiez ou pas, que vous en soyez conscient ou pas, ce que vous cherchez vraiment, au fond, c'est Dieu lui-même. La venue de la lumière. Dieu seul est la vie, la vérité, la joie dont nous avons besoin. Et on ne peut pas avoir ces choses par nous-mêmes. Alors, comment avoir cette lumière divine? Comment avoir cette vie divine en nous? Comment connaître la vérité et la joie parfaite dont Jésus parle? Parce que Jésus dit au cours de son ministère, il enseignait puis il disait, « Moi, je vous donne une joie pas comme le monde peut vous donner, pas les plaisirs de ce monde. Et oui, il y a plusieurs choses qui peuvent nous faire plaisir, nous rendre joyeux. Il y a plusieurs activités qu'on peut faire qui sont plaisantes. Mais la joie parfaite, Jésus dit, moi, je vais vous donner une joie qu'on peut pas décrire. C'est indescriptible. Et je vais vous donner une joie parfaite qui satisfait l'âme, qui satisfait le cœur. Eh bien, Ésaïe, chapitre 9, verset 5, Ésaïe répond, comment avoir cette lumière? Il dit, « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Quatre titres qui sont donnés, attribués à Jésus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, ces quatre attributs, ces quatre qualités, ces quatre vérités, ces quatre révélations appartiennent qu'à Dieu seul dans les Écritures. Et voilà qu'elles sont appliquées à Jésus-Christ. Alors, cet enfant, c'est cet enfant qui va naître miraculeusement, et ça fait allusion à Jésus-Christ, comme on l'a vu tantôt par des citations du Nouveau Testament. Cet enfant qui va naître apportera cette lumière. Pourquoi? Parce qu'il est le merveilleux conseiller. Il est le Dieu puissant. Il est le Père éternel et il est le Prince de la paix. Imaginez, il est le merveilleux conseiller. Pourquoi? Parce que Jésus a vécu ici sur terre, il a quitté le ciel, il est venu, il est entré dans nos ténèbres, il a vécu sa vie ici, il a souffert toutes les souffrances inimaginables. Donc, à quelque part, il peut vous rencontrer dans vos souffrances, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on éprouve. Et il sympathise et il comprend parce qu'il a vécu cette souffrance. Alors, il est le merveilleux conseiller. Il se tient près de nous. Il peut nous conseiller alors qu'on passe à travers ces moments si difficiles qui nous dépassent parfois et qu'on ne sait pas quoi faire. Il est la sagesse. Il est le merveilleux conseiller. Il comprend, il empathise, il a de la compassion. Mais en même temps, il peut conseiller, car il est aussi le Dieu puissant qui peut te faire sortir, qui peut intervenir, qui est souverain, qui dirige des choses. Et même lorsque Dieu permet qu'il y ait des épreuves dans ta vie, c'est pour notre bien, dit les Écritures. Vois-tu, quelqu'un a déjà dit ceci, il a dit, tu sais, quand Dieu envoie des épreuves, c'est pour te faire avancer. Quand le diable envoie des épreuves, c'est pour te faire reculer. Mais lorsque Dieu, lui, et on sait que Dieu est au contrôle de nos vies, lorsque Dieu est là dans nos vies, il nous tient, il nous garde, et c'est pour ça qu'on peut lire dans Romains 8, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Nous pouvons avoir cette confiance parce que Jésus est le Dieu tout-puissant et il est notre sauveur. Et aussi, il est le Père éternel. Un titre que je vous ai déjà expliqué, c'est un titre que l'on donnait à des gens qui maîtrisaient un art ou un métier. Par exemple, si quelqu'un maîtrisait l'art de fabriquer des meubles, on l'appelait le Père du meuble. C'était la personne qui maîtrisait quelque chose. Et on attribue à Jésus le Père éternel. En d'autres mots, il est le maître du temps. Il est le maître de l'éternité. Imaginez, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Il est le maître du temps. Il est donc le Créateur. Et pourtant, cet enfant va naître. Cet enfant viendra au monde. Le maître de l'éternité viendra au monde. Vous savez, aucune religion dans le monde fait une telle déclaration. À la fois 100% homme et en même temps 100% Dieu. C'est un miracle en soi. Et c'est ça qu'on célèbre à Noël. Et devant ce miracle de l'incarnation où Dieu quitte le ciel et s'incarne dans le corps d'un simple serviteur et vient ici, entre dans nos ténèbres pour apporter la lumière et apporter le salut. Nous sommes devant ce miracle de l'incarnation, nous sommes émerveillés. Nous sommes remplis d'amour, d'admiration, de louange et d'adoration. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, si Jésus est le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le merveilleux conseiller, le prince de la paix. Ça veut dire quoi? C'est qu'on peut pas rester indifférent à cela. Vous savez, les gens qui ont croisé Jésus lors de son ministère ne pouvaient pas rester indifférents. Soit qu'ils faisaient peur, on voit certains qui en avaient peur, soit qu'ils étaient en colère. D'ailleurs, même plusieurs ont été en colère au point d'essayer de le tuer. Plus d'une fois, ils l'ont même emmené à la crucifixion, ils l'ont tué. Mais d'autres, comme Pierre et bien d'autres disciples, lorsqu'ils ont vu les miracles qu'il accomplissait, lorsqu'ils ont compris ce que Jésus révélait de lui-même, se sont agenouillés, se sont jetés à genoux et ils ont commencé à l'adorer. C'est Pierre qui va dire, « Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis trop pécheur. » Vois-tu, t'approcher de Jésus est très révélateur, c'est la lumière du monde. Et Pierre réalisait, voyait son cœur, lorsqu'il voyait Jésus-Christ et voyait la beauté, la perfection, l'excellence, voyait l'homme parfait et le Dieu parfait. On ne peut pas rester indifférent devant ce miracle de l'incarnation et de la naissance de Jésus-Christ. Quelle beauté! C'est magnifique! Quel amour et quelle grâce! Je pense que c'est Paul Tripp qui l'a bien dit. Il dit ceci, il dit, « Le fait est que le péché est beaucoup plus dévastateur qu'on pourrait le croire. Et la grâce, plus vaste et magnifique qu'on puisse imaginer. » Jésus est la lumière divine du monde parce qu'il apporte une nouvelle vie pour remplacer notre mort spirituelle, parce qu'il nous révèle la vérité qui guérit notre aveuglement spirituel, et parce qu'il est la beauté qui nous libère de nos péchés et nous fait connaître la vraie liberté. Il nous fait connaître la joie parfaite. Et maintenant, on peut se tourner vers lui parce qu'il est le prince de la paix. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour votre âme. » Jésus dit, « Je vous donne une paix qui est indescriptible. Elle surpasse l'intelligence. Je vais remplir ton cœur d'une paix, même malgré lorsque tu passes à travers l'ombre de la mort. » Mes chers amis, c'est ça que nous célébrons à Noël. Comment le recevoir? Comment recevoir cette lumière? Remarquez ce qui est dit dans Ésaïe. Un enfant nous est donné. Mes chers amis, c'est un don. ce don est là seulement et il est à vous, ce don est à vous seulement si vous le recevez comme un don de grâce. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a pris les conséquences de nos péchés. Il a payé notre dette, la dette que l'on avait envers Dieu à cause de notre rébellion contre lui. Lorsque nous plaçons notre confiance sur l'œuvre de Jésus, lorsque nous croyons ce que Jésus a accompli à la croix pour nous, là, sur la croix, plutôt que de mettre notre confiance sur nos épaules, sur nous, sur nos efforts, eh bien là, Dieu nous pardonne et nous accepte comme son enfant. Il nous adopte dans sa famille. Il place en nous son Esprit Saint qui nous donne cette nouvelle vie spirituelle, la vie éternelle. Cette divine lumière vient habiter dans nos cœurs. Et là, on devient un enfant de Dieu. Mes chers amis, la seule façon de le recevoir est de reconnaître que c'est une grâce qu'on ne mérite pas, ce magnifique don qu'est Jésus-Christ, cette lumière, la lumière. C'est lui que nous voulons célébrer à Noël. C'est cet enfant qui est né, la lumière du monde. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier pour cette lumière qui est rentrée dans nos ténèbres. Et je me rappelle ce jour comme c'était hier où tu es entré dans mes ténèbres. Lorsque tu t'es tenu à la porte de mon cœur et tu n'attendais, tu frappais à la porte de mon cœur et tu attendais que j'ouvre la porte de mon cœur. Peut-être, Seigneur, que ce matin, il y a quelqu'un, soit qui nous écoute sur l'Internet, ou même peut-être qu'ici, ce matin, dans cette salle, il y a peut-être quelqu'un qui ne t'a pas encore ouvert son cœur, qui n'a pas encore reçu ce don que tu es venu offrir. Seigneur, nous te prions que dès l'instant présent, dès maintenant, alors que nous sommes en train de te prier, nous te prions que cette personne puisse t'ouvrir son cœur, qu'elle puisse céder sa vie entre tes mains, qu'elle puisse recevoir cette lumière divine. Ô Seigneur, nous te remercions pour nous qui l'avons déjà fait, qui avons déjà reçu ce don magnifique de cette lumière divine qui veut venir éblouir nos vies. Quelle aventure que d'être un enfant de Dieu, Seigneur. Nous voulons te servir, nous voulons t'offrir nos vies. Seigneur, nous t'aimons parce qu'un jour tu nous as aimés, même lorsque nous n'étions pas aimables. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es venu ici dans notre monde. Tu as tout quitté la gloire au ciel pour venir ici, te laisser te faire mépriser, humilier jusqu'à la croix, subir même la mort, toi qui es la source de la vie, subir la souffrance, alors que toi tu donnes la paix. Avoir un cœur brisé, triste et plein de chagrin, alors que toi tu es la source de la joie. Tu es venu être fatigué alors que c'est toi la vie. Seigneur, tu sais où nous sommes, tu connais nos vies, nos cœurs, tu sais ce qu'on vit. Tu es le prince de la paix, le merveilleux conseiller, le Père éternel et le Dieu tout-puissant. Ô Seigneur, que personne ne quitte ce lieu sans céder sa vie entre tes mains, Seigneur, pour ta gloire. Et nous te prions que dans cette période des fêtes, nous puissions, nous, à notre tour, refléter cette belle lumière, être de beaux témoignages dans nos familles. C'est comme ce frère qui est venu me voir au premier service, qui me racontait qu'il s'était réconcilié avec un proche, alors que ça faisait des années qu'il était distancé, qu'il ne se parlait plus, il y avait cette amertume entre les deux. Et tu as tout réglé vendredi, alors que ce frère a voulu être un bon témoignage. Il a fait les premiers pas. Allez voir ce frère, cet homme, pour se réconcilier. Seigneur, on te prie que dans ce temps des fêtes, tu puisses faire des miracles dans nos familles, dans nos amis, dans nos collègues de travail. Manifeste cette lumière divine à travers nous, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci, Normand.